Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux parce que j'ai vu la qualité des 3 premières séances qui étaient vraiment d'un très haut niveau. Alors, je vais essayer de ne pas faire baisser le niveau, pas trop, hein. Mais avant tout, je tiens à dédier cet exposé et qui, je l'espère, en résultera la mémoire de mon ami Michael Stolaris, qui est décédé le 18 mars dernier, et tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, d'échanger avec lui, savent ce que nous venons de l'immense savant. Et le qualificatif n'est pas suffisant pour tout ce qu'il était. Et je veux ajouter que, outre très grand savant, c'était un homme incroyable, élégance personnelle, intellectuelle et morale, qui vient de nous quitter. Donc, voilà, c'était ma dédicace. Le titre de cet exposé, c'est-à-dire Le dernier recoin de la maison, Portal, la philosophie, l'histoire et la science juridique, est inspiré de Portal lui-même. Au début du texte qui a été mis en ligne, Portal, traduit par moi, évoque une distinction, celle que connaît le savoir du droit, qui est à la fois, dit-il, l'objet d'une science particulière, la jurisprudence, et de la science universelle, la philosophie. Puis il indique d'une manière traditionnelle selon laquelle cette distinction a été considérée et établie. On a aussi, je le cite, on a aussi cherché à exprimer cette distinction de la manière suivante. La science positive du droit s'occupe du droit, qui est la science philosophique du droit, qui est, pardon, la science philosophique du droit tel qu'il devrait être. Mais de cette façon également, on reconnaît au seul droit positif la liberté de l'existence, une liberté que la raison impuissante, je cite toujours Courtin, devrait vraiment s'efforcer de limiter. Dans cette vision des choses, la philosophie n'aurait jamais affaire qu'avec l'ineffectif, puisque aussitôt que son objet passe du devoir être, du Seinsollende en allemand, à l'être, il cesse d'être son objet et rentre dans le giron de la science positive du droit. On pourrait penser, c'est encore Porta qui parle, que cette délimitation des domaines a été inventée par les juristes, qui sont méchants, ça c'est moi qui le dis, et qui, par cet artifice, auraient consigné les philosophes dans le dernier recoin de la maison. In den hintersten Winkel des Hauses. Les philosophes sont dans la remise, dans la cave ou au grenier, on ne sait pas, dans un coin sombre, d'où ils ne feront pas don aux juristes, comme Gosford Park ou à Downton Abbey. Les serviteurs sont au sous-sol et l'aristocratie anglaise dans ses appartements. Et lumineux. Le conflit des facultés, qui est ici presque comme un conflit de classe. La philosophia perennis serait ancilla jurisprudentiae. Et ce serait trop simple pour Courtin, car c'est sans compter cette tendance sereinement masochiste à l'aveuglement des philosophes qui, décidément, aiment la caverne. Courtin continue. Et pourtant, ce sont bien les philosophes qui sont allés chercher pour eux-mêmes ce recoin où ils ont cru trouver leur somptueux appartement. En renonçant à l'effectif et au positif, ils ont eux-mêmes donné crédit à l'idée que la philosophie leur serait hostile ou au mieux à l'idée selon laquelle elle ne serait qu'un innocent enfantillage. Il n'y aurait donc pas de conflit puisque ce sont les philosophes qui se sont, comme on dit aujourd'hui, auto-confiné en quelque sorte. Il convient donc de ne pas laisser plus avant prospérer le litige, puisque, au fond, il n'y a pas de litige, ou plus exactement, il n'y en a plus, ou il pourrait ne plus y en avoir. Il n'y en aurait plus, puisque les philosophes sont remontés de leur cave en s'intéressant à l'effectif et au positif. Il n'y en aurait plus, puisque les juristes, du moins les véritables juristes conscients des présupposés de leur science, deviennent enfin conscients qu'ils ne peuvent parler sensément de leur pratique scientifique sur le droit effectif et positif qu'en en appelant à une philosophie qui, désormais, leur donnerait les moyens aussi nouveaux que nécessaires pour le philosophes et juristes pourraient enfin partager la jouissance des plus somptueux et lumineux appartements mis à leur disposition. On ne comprend ce rapprochement que si l'on identifie correctement le point de rencontre et de réconciliation. C'est pourquoi le titre de cet exposé place l'histoire comme un trait d'union entre philosophie et science. L'école historique fondée par Savigny, et dont Porta est le principal disciple le plus intéressant, est le lieu même où la philosophie et la science juridique se rejoignent et peuvent se féconder mutuellement. La philosophie est sortie de son coin où elle était reléguée dans la maison du roi parce qu'elle a investi d'une manière nouvelle la question de l'histoire. La science juridique qui se rénove au même moment, dans cette première moitié du XIXe siècle, peut et doit se porter vers la philosophie parce qu'elle a non pas seulement à constater l'historicité du droit, mais à la comprendre. À comprendre ce qu'est cette histoire du droit et du droit actuel. Ce qui est, en termes simples, le programme de l'école historique. Dans cet exposé, je vais d'abord soutenir et démontrer à l'appui du texte Porta, une thèse inspirée par la grande thèse d'habilitation de Joachim Kückert en 1986, consacrée à Savigny et aux fondations idéalistes de sa pensée, que je me suis efforcé de développer par d'autres moyens dans le livre de 2005 que j'ai publié sur l'histoire de la pensée juridique en Allemagne au XIXe siècle. À savoir que l'école historique du droit chez Savigny et Porta, à tout le moins, ne se comprend pas sans tenir compte d'une certaine provenance philosophique que l'on peut dire idéaliste. Et c'est de là qu'elle modifie la compréhension de l'histoire aussi, et dont ce que l'histoire fait véritablement au droit. Et puis, voilà, à mon propos principal. Quelques mots sur la biographie de Georg Friedrich Porta, qui naquit en Bavière en 1798 et mourut à Berlin en 1846. Donc, vieux, 48 ans. Ayant poursuivi ses études à Erlangen, il ne fut jamais l'étudiant de Savigny, qui était de près d'une vingtaine d'années son aîné. C'est seulement à l'occasion de son voyage de formation, ses études terminées et le titre obtenu en 1820, que Porta rencontra Savigny à Berlin en 1821. Et il s'en est suivi une correspondance très nourrie et ininterrompue. Si cette rencontre a définitivement conclu l'adhésion de Porta aux thèses fondamentales du fondateur de l'école historique du droit, deux rencontres philosophiques ont également marqué Porta comme écolier, puis comme jeune docteur. D'abord, il fréquenta de 1811 à 1816 l'Aegidium Gymnasium de Nuremberg. Donc Hegel était le recteur. Hegel qui lui dispensa l'enseignement de la philosophie. Attention. Puis, Pourtant devenu professeur extraordinaire à Erlangen, sans cher, hein, en 1823, il a fréquenté comme auditeur libre les cours de Schelling, qui enseigna dans cette ville de 1820 à 1826. C'est à cette période que s'est nouée une relation profonde et durable entre les deux hommes. Schelling, on me dit qu'il y a peut-être des problèmes de micro, mais vous m'entendez bien?
Je crois que c'est mieux, Olivier, si tu n'approches pas ton visage de ton écran. C'est quand tu bouges en avant et en arrière qu'il semble qu'il y a un
Deux
problème.
écrans, en fait.
Désolé. Désolé de
Non,
t'avoir.
mais je vais rester sage. Schelling rejoignit la toute nouvelle université de Munich en 1827 et pourtant l'y retrouva l'année suivante comme professeur ordinaire. La très belle thèse de Hans-Peter Haferkamp parfaitement documenté la consolidation de l'amitié entre les deux hommes. Et à Munich, Porta visita encore et à nouveau les cours de Schelling. L'extrait proposé, soumis, envoyé, qui vous a été envoyé de Porta, est tiré de l'Encyclopédie, qui forme le premier livre, qui est long d'une petite centaine de pages, du Cursus der Institutionen, c'est-à-dire un cours d'institut, c'est-à-dire du traité en trois volumes correspondants à côté du cours de Pandect, l'un des enseignements obligatoires de droit romain à l'époque. La première édition du volume de ce livre date de 1841. Il s'agit donc d'un livre de la maturité, je ne dirais pas de la vieillesse, puisque mort à 48 ans, pourtant, n'a jamais eu le temps d'être vieux. En 1841, c'est-à-dire quelques mois seulement avant son arrivée à l'université de Berlin, l'arrivée de Pourtant. Il convient de faire deux remarques introductives qui, à mon avis, ne sont pas sans importance. Premièrement, le texte de l'encyclopédie, de cette encyclopédie, est à ma connaissance le seul texte venu de cela que l'on appelle l'école historique du droit, et qu'il se soit jamais proposé d'apporter aux conceptions de cette école un fondement philosophique, à prétention systématique, une déduction du concept de droit à partir d'un certain concept, a priori, de la liberté. Je reviendrai évidemment sur ce point. Savigny, pour me borner à lui, n'a jamais éprouvé le besoin d'une telle fondation philosophique. Dès les premiers cours à Marbourg, à partir de 1802, le jeune Savigny insistait sur le fait que une science authentiquement historique, c'est son expression, droit, imposait un double traitement, une approche historique au sens classique, c'est-à-dire philologique, et puis une approche philosophique, sans qu'il ne précise jamais ce que cela, une approche philosophique, philosophiquement voulait dire, se bornant à employer comme synonyme de philosophique dans ce contexte l'adjectif. Il y a cependant dans cette imprécise précision de cette double approche nécessaire un point très clair qui est au cœur de mon propos aujourd'hui. Une science véritable. Véritable science historique du droit en tant que science doit penser ensemble histoire et système, ce qui se traduit dans l'usage certes commun à l'époque de la métaphore de l'organisme qui est récurrent chez Savigny, Porta et dans toute l'école historique, non pas en un sens biologique, mais en tant que la métaphore qui explicite l'union de l'histoire et du système veut dire. Un organisme est un système en permanente évolution. Écrire l'histoire du droit d'un organisme populaire, c'est considérer cette histoire comme la biographie d'une individualité, le peuple, à la fois libre, mais comme le dit Savigny, il s'agit ici d'une commune liberté supérieure, je cite, mais tenue en et par son système organique. D'où un passage célèbre de l'article programmatique rédigé par Savigny et qui ouvre le premier numéro de la Zeitschrift für Geschichte Rechtswissenschaft, c'est-à-dire la revue pour la science historique du droit en 1815. Je cite, c'est très célèbre, « Chaque époque doit reconnaître quelque chose de donné qui, cependant, est à la fois nécessaire et libre, nécessaire dans la mesure où cela ne dépend pas de l'arbitraire du présent, libre parce que cela ne provient pas davantage d'un quelconque arbitraire étranger et particulier, mais à l'inverse, est engendré par la nature supérieure du peuple, comme un tout, constamment en devenir un tout qui se développe. » Fin de citation. On voit ici, deux motifs corrélés entre eux, celui d'une pensée capable d'unir histoire et système, et celui d'une unité entre liberté et nécessité, et qui me semble caractéristique de l'idéalisme post-chrétien, mais qui apparaissent, il est vrai, dans le texte savinicien, plutôt comme des aplats rhétoriques, et non comme le résultat d'une déduction philosophique. Cette liaison entre liberté et nécessité, Savigny l'exprime un peu plus bas dans le texte à travers l'idée d'une nécessité intime ou intérieure, une innere Notwendigkeit. On peut envisager une diversité de sources philosophiques à l'heure actuelle empruntées par Savigny sans pouvoir assigner précisément sa pensée à l'influence d'un auteur particulier. Le principal disciple de Hegel à Berlin, Eduard Kanz, écrira à juste titre dans son Erbrecht, une belle geschichte, c'est-à-dire son droit héréditaire dans son développement historique mondial en 1824, et je cite, c'est les historiens, c'est-à-dire les saviniciens aussi, il y a quelque chose de l'identité de la liberté et de la nécessité qui transperce, on le voit, et il cite ce texte, sans qu'on sache de quoi il retourne. Ceux-ci, les historiens, n'ont pas craint de poser ce principe au sommet de leur système, mais ils ne l'ont pas explicité. Deuxième remarque. En 1824, lorsque Gans écrit ses lignes, le conflit est déclaré depuis quelques années déjà entre historiens, école historique, et hegeliens, et il est violent. Les hostilités frontales furent déclenchées après les premières salves tirées par Hegel dans les principes de la philosophie du droit, et notamment le célèbre paragraphe 211. Mais les salves ont été plus durement encore tirées par un disciple Hegel, Leopold von Henning. Et dans un article paru en 1821, je reviendrai plutôt plus loin sur cet article intitulé, je cite, « Sur la relation de la philosophie avec les sciences positives en général et en particulier avec la science du droit en tant que basée sur un fondement historique ». Toute la deuxième partie de cette étude est consacrée à l'attaque l'école historique et plus précisément Savigny. Elle part, elle aussi, comme Gans, 3 ans plus tard, de cet article programmatique de la revue de 1815 sur le but de la présente. Elle commence par critiquer l'opposition qui fait Savigny entre l'école historique et l'école anhistorique du droit dans ce assignant, comme le fait Savigny, à cette dernière, ce que Savigny appelle l'école historique, elle est soit philosophie ou droit naturel, d'un côté, ou le sens commun, le gesunder Menschenverstand, de l'autre côté. Cette opposition semble ranger la philosophie dans le camp d'une pensée anhistorique. Et Henning, qui écrit cet article violent contre Savigny, ne cite pas exactement Savigny, puisque lui parle de philosophie ou droit naturel, c'est-à-dire clairement qu'il vise la philosophie des Lumières. Lénine dit, ah non, mais il condamne la philosophie en général. Et cela permet d'affirmer à Lénine qu'il y a une troisième voie, je le cite, entre l'historisme de Savigny et l'anhistorisme du sens commun et la philosophie formelle, il renvoie, bon, Henning, cette philosophie formelle, c'est celle de l'idéalisme subjectif. Mais il y a la troisième voie qui est celle de la philosophie concrète, c'est l'expression de Henning, et que l'on doit entendre dans cette formule comme l'hégélianisme. Dans la mesure où l'école historique, sous la plume de Savigny, paraît rejeter la philosophie en faisant son adversaire, elle se condamne à n'être qu'une science qui repose tout au plus, je cite Henning, sur une house philosophie, une philosophie domestique, une philosophie, voilà, familiale. On a envie de dire une philosophie de confort. Une telle philosophie n'en est pas une. Et ne serait fondé, selon Henning, le principe même dont l'école historique se réclame, c'est-à-dire celui d'une nécessité intérieure, d'une innere Notwendigkeit, qui permettrait de comprendre l'histoire d'un peuple et l'histoire intérieure d'un peuple et de son droit. En fait, et je cite Henning, une nécessité intérieure qui devrait être connue par le moyen de l'histoire, n'est ni plus ni moins qu'une simple nécessité empirique, c'est-à-dire extérieure. Celle-ci, cependant, et je cite toujours Henning, est et reste incompatible avec la liberté. Donc, Savigny a tout faux. On peut résumer l'argument de Henning de la manière suivante. Se voulant aphilosophique, l'école historique ne peut fonder les principes qui la guident quand une école véritablement philosophique, c'est-à-dire hégélienne, serait pour sa part véritablement historique. Et pourtant, on l'a dit, l'école historique de Savigny reconnaît depuis ses origines une certaine dimension philosophique. Il y aurait donc là un grand malentendu. Mais il faut reconnaître que la responsabilité de ce malentendu vient moins d'une malveillance certaine, en hégélien, que du refus de l'école historique de s'expliquer quant à sa propre philosophie, pour en rester à de vagues allusions jamais précisées, d'où la critique d'une philosophie domestique. Ce refus d'expliciter les fondements philosophiques de la démarche de l'école historique est parfaitement attesté. Il fut l'objet d'un débat à l'intérieur même de cette école. Pourtant, lui-même, pourtant, en 1825, affirmait, je cite, il est enfin temps d'abandonner l'idée selon laquelle, parce que la philosophie a affaire avec le tout, tout aurait affaire avec la philosophie. Cependant, à la fois parce que l'attaque hégélienne était puissante et parce qu'il n'échappait à personne que l'école historique, même à l'intérieur de celle-ci, reposait sur un non-dit philosophie, alors qu'elle présupposait une certaine philosophie de l'histoire, le débat autour de la fondation philosophique de cette école devait gagner le cercle des adeptes, pas historiques, et même des proches. Les proches, Friedrich Julius Stahl, on ne peut pas considérer comme affilié à l'école de Savigny, mais comme un proche et surtout comme un anti-hégélien. Mais il reprochait à Savigny en 1830 d'avoir renoncé, je le cite, à l'étude des raisons ultimes du juste. S'agissant de la question d'une fondation philosophique de l'école historique, la nécessité d'une explicitation était devenue aussi bien intérieure qu'extérieure. Extérieure parce qu'il convenait de faire le poids pour l'agression hégélienne, intérieur, il fallait bien s'expliquer sur cette dimension philosophique que Savigny lui-même avait, dès ses débuts, soulignée comme participant de l'approche authentiquement historique. Mais Savigny s'y refusa, expliquant dans une correspondance privée avec un certain soupçon de mauvaise foi, et en 1856 encore, donc bien tardivement, que, je le cite, depuis toujours, la littérature philosophique est restée relativement étrangère à mes occupations. C'est pourquoi on peut considérer que, même si tardivement le texte Pourtant de 1841 s'explique par ces pressions internes et externes qui demandaient, pourquoi on peut considérer que ce texte s'explique par ces pressions externes, internes, qui demandaient à l'école historique de s'expliquer quant à ça, à ses fondements. C'est en tout cas, je crois, une hypothèse très logique. Il ne s'agit pas de rechercher dans ce texte une grande philosophie. Je l'ai dit, Porta a reçu de première main les enseignements de Hegel et de Schelling, mais il fut un juriste, un grand juriste, qui s'essaya une fois et une seule fois à s'expliquer de sa philosophie. Une philosophie de juriste, hein. Et surtout, il n'y a pas de raison pour douter de sa volonté de conciliation entre sciences du droit et philosophie, de faire sortir celle-ci du dernier recoin de la maison. Le texte répond à Henning en ce sens qu'il entend relever le défi de cette fondation philosophique de l'école historique, même si l'on a une certitude quant à savoir si Pourtant avait lu ou pas la contribution de Henning 20 ans plus tôt. Mon hypothèse de lecture est que ce texte entend échapper à Hegel et trouver chez Schelling, et notamment dans les recherches sur la liberté humaine de 1809, Schelling, une alternative qui permettait à Pourtant d'assumer cette échappée. Il est véritablement compris Hegel et Schelling, c'est une autre histoire. En tout cas, ce texte peut et sans doute doit être lu comme une tentative profondément idéaliste de fondation du droit et de sa science, malgré toutes ses faiblesses philosophiques. Hegel, c'est le seul philosophe auquel renvoie Pourtant dans ce texte. Au début du texte, dès le paragraphe 2, vous ne l'avez pas, hein, mais après avoir défini la raison, Vernunft, comme la faculté de connaître la nécessité, Pourtant en déduit que nous ne pouvons attribuer la raison à Dieu, pour lui, rien n'est nécessaire. Le nécessaire n'est pas autre chose, pour lui, je cite toujours, qu'un acte libre de son esprit. C'est pourquoi le bien plus élevé de l'homme ne saurait être la raison, mais l'idée. Puisque c'est dans l'esprit et la liberté que réside la ressemblance de l'homme à Dieu. La raison n'est pas le principe de la liberté. Et la séparation entre raison et liberté est ici radicale au sens propre de ce terme, à la racine. Ce n'est pas la liberté qui serait dans la dépendance de la raison, mais au fond, plutôt la raison qui serait dans celle de la liberté. Je cite pour, car si le mal est l'irrationnel, alors la liberté porte en elle la possibilité du mal, ne peut être déduite de la raison. Conformément à la raison, je cite toujours, le bien devrait nécessairement se produire. Qu'il doive se produire par la liberté, il n'exclut pas la possibilité du mal, c'est toujours Pourtant qui parle. Cela est contraire à la simple raison. La raison n'est pas un principe de la liberté, mais bien au contraire un élément qui s'oppose à la liberté. Je ne pense pas aller trop loin, mais on peut me critiquer, hein, en disant que l'idée selon laquelle la liberté comprend la possibilité du mal est très probablement tributaire des recherches sur la liberté humaine de Schelling, qui rompt précisément avec une doctrine classique de la liberté comme propensio in bonum, comme disait Descartes, et transforme le concept de liberté dans son ensemble et détermine, là je cite Schelling maintenant, le concept de idéal et vivant de la liberté, par opposition à un concept simplement formel, concept réel et vivant, étant le pouvoir du bien et du mal. Non moins d'inspiration chez Lignier me semble alors venir à la critique de Hegel par Pourtant. Je cite Pourtant, seul le nécessaire est rationnel. Élodie en parlera davantage et mieux que moi. Dès lors, c'est Pourtant qui parle, une philosophie qui exclusivement se donne pour, comme examen approfondi du rationnel, Ergründung des Vernünftigen, et Pourtant cite l'un, c'est la seule citation philosophique qu'il fait, pardon, il cite la préface de la philosophie du droit de Hegel. Donc, une philosophie qui se donne pour examen approfondi du rationnel va renoncer à étudier la liberté jusqu'en son fond. C'est pour ça qu'il parle. Et lorsque, afin de sauver son universalité, elle ramène l'effectif dans son ensemble à l'intérieur du cercle du rationnel, ce qui est rationnel est effectif et ce qui est effectif est rationnel, pour ça ajoute, entre parenthèses, nécessaire, elle nous dérobe la liberté qu'elle déclare être justement de cette manière quelque chose d'ineffectif. Alors, je vais laisser à mes camarades hegeliens dire tout le mal qu'ils pensent de cette interprétation de Hegel, mais il me semble précisément que pourtant, suit encore une veine schellingienne, selon laquelle, pour le dire simplement, le fond obscur d'être est vouloir. Et donc, la liberté prise en son concept réel et vivant par rapport à la liberté abstraite chez Schelling, précède nécessairement une raison qui ne peut être dite en Dieu comme fond de l'être et qui est ainsi à la fois originellement disjointe, séparée de la liberté et absolument seconde par rapport à cette liberté pour le bien. La liberté, écrit pourtant, est le germe. Mais il s'agit encore, selon pourtant, de distinguer deux concepts. D'une part, le concept qu'il qualifie d'abstrait, et qu'il définit comme, je cite, la possibilité de se déterminer pour quelque chose, et le concept concret, d'autre part, qui est celui d'une liberté certes finie, mais saisie dans son rapport à la liberté infinie et infiniment bonne de Dieu, en tant qu'elle se détermine concrètement pour le bien ou pour le mal. En conséquence, c'est pour ça qu'on parle, le concept concret de la liberté humaine est le choix entre le bien et le mal. Bien sûr, la liberté véritable, dans le choix du bien, qui consiste, je le cite, à marcher dans la lumière de l'Esprit de Dieu. Et cette distinction, qu'on peut interpréter comme une transposition, peut-être mal comprise, de la distinction de Schelling entre liberté abstraite et liberté réelle et vivante, toujours dans le texte de 1809, est décisive en tant qu'elle permet de distinguer et séparer conceptuellement pour pourtant le droit de la morale, qui sont tous deux des sciences de la liberté. La morale est la science qui analyse la liberté affrontée à cette question du bien et du mal. En revanche, le droit est la science de la liberté en tant que simple possibilité d'un choix, c'est-à-dire de la liberté abstraite, indépendamment de la question morale, c'est-à-dire de la question du bien et du mal, le droit est donc une science de la liberté abstraite. Je dois aller vite juste pour dire que le concept fondamental du droit, c'est-à-dire du système des droits, comme dit pourtant, c'est celui du droit dit subjectif. C'est-à-dire, excusez-moi, mais je pensais avoir passé une page. Bon. Eh bien oui, j'ai passé une page, excusez-moi. Non. du droit se dise, non, ça va, bon, excusez-moi. Le concept fondamental du droit, du système des droits au pluriel, c'est celui du droit dit subjectif. Et le droit, et c'est un système des possibilités de la volonté, c'est une expression de Pourtard. Donc, du système des possibilités de la volonté que le droit dit objectif, selon ses conditions objectives, on a un pouvoir ou puissance marque à l'égard d'autrui. D'où sa déduction, après tout ce qui précède, du concept de droit subjectif, comme, et ce sera la définition canonique du pandectisme allemand jusqu'à la fin du 19e siècle, comme puissance ou pouvoir de la volonté. Là, on comprend, il y a quelque chose de très fort chez les Willensmacht, pouvoir de la volonté. Mais je vais en venir pour terminer à la question de l'histoire qui est au fond en filigrane de tout mon propos sans avoir été vraiment encore explicité et encore moins élucidé. Et pour ce faire, je voudrais qu'on revienne un instant à Schelling. Le fond de l'être est vouloir. Un vouloir dont l'origine est cependant obscure. Je ne peux ici que donner de très simples indications quant à ce qu'il en est chez Schelling. Le point de départ décisif pour moi tient en la qualification de la volonté la plus originaire, c'est-à-dire la volonté en Dieu comme Sehnsucht. Alors aujourd'hui, Sehnsucht, ça veut dire la nostalgie. Et c'est pas du tout cela ici. Il faut entendre ce terme dans son étymologie. Et les traducteurs de Schelling, Gallimard, le rendent, me semble-t-il, assez bien par désirement. Parce que Sehne, c'est là, Sehnsucht, Sehne, c'est désirer quelque chose. Un désir où se conjoignent intimement le sujet désirant, et l'objet désiré. Sucht, qui vient de suchen, rechercher, se distingue de suche, la recherche. C'est une recherche opiniâtre et même incontrôlable de ce qui est indispensable à celui qui cherche. C'est-à-dire, c'est une passion. C'est une passion, et aujourd'hui, Sucht désigne l'addiction. Vous voyez? Donc, Sehnsucht, c'est le désir passionné de quelque chose, ce qui détermine le vouloir originaire, l'obscur objet d'un désir. Mais qui fait naître l'objet en tant qu'objet pour moi et donc le révèle à la lumière? Toute naissance, écrit Schelling dans le traité de 1809, toute naissance est naissance des ténèbres à la lumière. Et il ajoute, c'est de l'obscurité de ce qui est privé d'entendement, du sentiment, du désir, cette origine souveraine de la connaissance, que naissent les pensées lumineuses. Et voici la dernière citation de Schelling. Parce qu'il provient du fond, fondement du Grund, parce qu'il a un statut de créature, l'homme possède en lui, par rapport à Dieu, un principe indépendant. Mais, parce que justement ce principe, sans pour autant cesser d'être obscur en son fond, et transfigurait en lumière, quelque chose de plus haut surgit alors en l'homme, à savoir l'esprit. Fin de citation de Schelling. Or, pourtant, assigne le droit, parce que son principe est liberté et vouloir, à l'esprit, et plus précisément à l'esprit d'un peuple comme sujet, comme individualité subjective. Mais mon interprétation ici, c'est qu'il entend esprit, parce que c'est lui qui introduit le mot esprit du peuple. Et c'est pas Savigny. Savigny parle de conscience du peuple. Pourtant, il utilise aussi conscience du peuple. Il utilise esprit. Mais Il l'utilise au sens de Schelling et sûrement pas au sens de Hegel. Je pense que c'est un point absolument fondamental dans le débat et dans la querelle. L'esprit, c'est le travail d'un vouloir originel et obscur qui veut accéder à la lumière, à la visibilité, sans jamais, comme dirait l'autre, céder sur son désir. Non, sur son désir originel. Voilà ce que dit Pourtant. Ce qui nous est visible, ce n'est que ce qui est déjà né. Schelling, la naissance passe des ténèbres à la lumière. Ce qui nous est visible, ce n'est que ce qui est déjà né. Le droit, donc, après qu'il est sorti pour devenir effectif, hors de l'atelier obscur où il est préparé. Ce n'est pas une chose qui me rappelle l'obscurité du vouloir schellingien, mais une main à couper, pas les deux, mais une. Pour cette naissance, je reprends la citation de pour cette naissance, il peut prendre une triple forme. Premièrement, comme condition, comme conviction immédiate des membres du peuple, telle qu'elle se révèle à travers leurs actes. Deuxièmement, comme loi. Troisièmement, comme produit d'une dédiction scientifique. Et il ajoute, on appelle source du droit les organes qui donnent au droit sa forme visible. Ces organes sont la conviction populaire immédiate, la coutume, la législation, la science. Les trois sources traditionnelles de l'école seule. Or, il s'agit là d'une conception qui, au fond, pouvait aussi se revendiquer de la dogmatique de Stalinie. Trois sources du droit, coutume, législation et savoir des juristes, mais qui proviennent d'un fondement plus originaire, la conscience ou l'esprit d'un peuple. Et rappelons que l'analyse du lexique savinicien montre un terme récurrent qui est emprunté au lexique théologique, cette Offenbarung, c'est-à-dire révélation avec un grand R. Les sources du droit sont comme les sources d'une rivière, un point de jaillissement à la lumière d'un phénomène préparé dans les entrailles obscures de la terre ou dans celles non moins obscures de l'esprit ou de la conscience. Les sources du droit dans l'école historique ne sont pas les fondements du droit, mais les modes de révélation à soi-même de l'esprit d'un peuple. Si la genèse du droit dans l'esprit d'un peuple écrit pourtant est une genèse invisible, les sources sont les vecteurs qui portent cette ténébreuse affaire à la lumière, c'est-à-dire à la conscience d'un peuple qui, comme toute conscience, comme tout sujet, est activité, Tätigkeit. C'est un lieu commun de l'idéalisme allemand que de dire qu'un sujet n'est pas substance au repos, mais toujours une inquiétude et un travail, une Tätigkeit, une activité. Et on retrouve cette caractérisation du sujet, et ici il s'agit d'un peuple, comme sujet, aussi bien chez Pourtant que chez Savigny. Un sujet, c'est une activité. Mais ce travail des juristes, ce travail spirituel sur l'esprit du peuple, est proprement le travail de l'esprit d'un peuple sur soi, activité de la conscience de soi d'un peuple, puisque comme l'écrit Savigny, je cite dans De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit, de même qu'auparavant, le droit subsistait dans la conscience d'un peuple tout entier, de même il devient maintenant, c'est-à-dire après la division du travail, l'affaire de la conscience des juristes par lesquels le peuple est désormais représenté dans cette fonction. C'est que l'histoire de l'école historique n'est pas autre que l'histoire de cette activité de la conscience juridique de soi d'un peuple, et qui devient activité à travers la science, d'où la prééminence de la science du droit sur les autres sources. Le corollaire de cette thèse, c'est que le terrain où se joue cette histoire est déplacé par rapport à celui de la première historiographie qui a entendu s'établir comme une science historique à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire celle en Allemagne de l'école de Göttingen, qui relève de ce que l'on peut appeler, avec Hegel, une histoire pragmatique qui procède elle, selon le principe de causalité, une histoire que l'on peut dès lors qualifier d'externe, puisque la cause est essentiellement extérieure à ses effets. Le grand romaniste Gustave Hugo, lui, vient de l'école de Göttingen. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'une vue superficielle chez les historiens français du droit affirme, Hugo n'est pas le fondateur de l'école historique, en tout cas pas celle de Savigny. Savigny insiste, comme pourtant, sur ce point que la science historique, du droit en particulier, mais pas seulement, doit être une histoire interne. On le comprend dès lors que l'histoire n'est pas autre chose que l'étude de cette révélation évolutive d'une conscience à soi-même, d'un esprit. Ce qui suppose qu'il y ait un soi-même, qu'il y ait du même dans le soi. Et je vais citer à nouveau dans le texte, voilà, un peu avant, comme le peuple lui-même qui se modifie avec le temps, le droit change en tant qu'il est une branche de la vie du peuple, c'est-à-dire rien de stable, et qu'il évolue avec le peuple. Il s'accorde au caractère de ce peuple en fonction des différents degrés de la culture de ce dernier. Il s'accommode à ses besoins changeants. Cette modification n'est pas telle qu'il cesserait d'être le même. C'est le même peuple au commencement, je cite toujours pourtant, c'est le même peuple au commencement et à la fin de son parcours. Et c'est pourtant, sous tel ou tel aspect, un autre. De la même manière, son droit devient autre, tout en demeurant constamment le droit de ce même. Pour conclure, je formulerai quelques thèses qui découlent, à mon sens, de cette première thèse essentielle. Premièrement, l'école historique fut attaquée à l'époque par ses adversaires au motif qu'elle aurait promu une science d'antiquaire, je l'ai évoqué, antiquarisch. Cela signifiait une sorte de positivisme philologique naïf exclusivement tourné vers le passé. Et les Hegeliens se sont emparés de ce reproche qui les précédait, et je ne sais pas même s'ils y croyaient vraiment, peu importe. L'édition critique des textes, la recherche des interpolations, etc., furent des travaux auxquels se livra l'école. Et elle fit évidemment œuvre philologique au sens traditionnel de ce terme. Mais deux remarques. D'abord, à la même époque, la philologie a connu une profonde mutation, dont le principal auteur fut Friedrich August Wolff, dont on connaît surtout ses travaux sur. Mais il ne s'agit plus seulement pour lui de corriger l'édition de textes anciens, mais à partir de ce travail indispensable d'interpréter la totalité d'un monde ancien et perdu. Et il a donné à la philologie un nouveau nom, Altertumswissenschaft, c'est-à-dire science de l'Antiquité. Et Wolff flanquait le travail strictement philologique d'une autre tâche proprement herméneutique. Les deux étant des éléments constitutifs et collaboratifs du projet d'une science de l'Antiquité. De même, en abandonnant largement l'ancien mot de jurisprudence pour celui de Rechtswissenschaft, science du droit en tant que science historique, Savigny et Pourtard pensèrent comme formant un tout cette même conjonction de l'élément philologique et de l'élément philosophique ou herméneutique. Ensuite, les historiens du droit ont plus souvent lu les très insuffisantes et très fautives traductions de Savigny par Guénoux. Ils ont lu un traité de droit romain. Or, ce type même induit en une profonde erreur, puisque Savigny avait écrit un système du droit romain actuel, pas un traité de droit romain à la Gustave Hugo. Et le mot système a même disparu du titre français. Or, ce mot système, c'est la deuxième remarque, est essentiel. Il n'y a de science que ramener un système. Or, le problème fondamental pour Savigny et Pourtant fut de dépasser l'histoire comme cognitio ex statis pour en faire une cognitio ex principis. Trouver le principe interne qui permet et exige une interprétation authentiquement historique et scientifique du droit dans son développement historique. Je n'insiste pas, on peut y revenir dans la discussion, mais l'enjeu est pour eux d'établir les fondements de ce qui est peut-être à bon escient appelé une science historique. Or, une histoire interne d'un droit particulier, celui d'un peuple, ne saurait être systématisée sans que l'on présuppose, sans que l'on pose le postulat d'une innere Notwendigkeit, d'une nécessité interne qui explique qu'un peuple évolue et devienne autre tout en restant, comme je l'ai dit, le même, comme un système organique se développe en demeurant soi-même. La nécessité interne, expression récurrente chez Savinien et qu'on retrouve chez Pourtant, et qu'on retrouve aussi chez Schelling, est le principe fondamental de cette science historique interne. Troisième remarque, c'est l'avant-dernière, ça va aller vite, de lors que l'histoire de l'école historique est au sens précisé interne, elle ne s'explique pas par l'application du principe de causalité, comme on a dit. Une histoire externe, l'évolution historique d'un peuple et de son droit ne relève non pas de l'explication par la cause, voilà, par les causes, mais de l'interprétation et de la compréhension, c'est-à-dire d'une herméneutique. Et sur ce point que l'on doit comprendre le renouvellement par Savigny, qui est fondamental, tout le monde connaît, l'herméneutique juridique, et qu'on pense spécialement au premier volume du système du droit romain actuel, il faut la comprendre dans ses rapports avec le projet d'une herméneutique générale développée par le théologien Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, qui fut, avec Savigny, appelé parmi les tout premiers professeurs de l'université de Berlin en 1810. Pour le dire d'un seul mot, le processus de compréhension décrit par Schleiermacher et qui va sans cesse le cercle herméneutique des parties au tout et du tout aux parties me semble correspondre parfaitement à l'herméneutique historique du droit de Savigny et Pourtant, en permettant de concevoir le développement organique du droit d'un peuple comme un rapport évolutif et en ce sens circulaire des parties qui se transforment et d'un tout qui puisse, malgré ces modifications, rester le même. Dernière remarque, le conflit entre Savinicien et Hegelien s'est particulièrement focalisé à travers la critique hegelienne selon laquelle la nullité philosophique de l'école historique lui interdisait de considérer l'histoire du monde. Je rappelle que cette histoire du monde termine et donc parachève les principes de la philosophie du droit de Hegel au paragraphe 341 et suivant. Le constat de ce litige philosophique et épistémique est juste. La question est, mais d'où vient-il? Et ma réponse est qu'il faut en rechercher la racine dans la conception que se fait Pourtant, Savigny, l'école historique de l'esprit et de cette préséance ontologique, si c'est exact, sur laquelle j'ai insisté au début, de la liberté sur la raison. Sur le premier point, l'esprit d'un peuple dans l'école historique n'est pas vraiment autre chose que la conscience de soi d'un peuple. Et donc, l'esprit populaire est par nécessité interne, ontologique, inhérent à un sujet collectif qui est un peuple, et il reste donc purement interne et enfermé dans ses propres raisons. Sur le second point, c'est précisément l'effet de la liberté comme autonomie en tant que sujet qui le ramène toujours essentiellement à lui-même comme à sa vérité, même si dans un passage du texte Pourtant, ce peuple autonome n'est pas si enfermé en lui-même qu'il ne puisse prendre un certain intérêt, mais très relatif, pour l'étranger. En tout cas, parce que la liberté du sujet populaire est absolument première et déconnectée de son, en son principe même, de la raison, en tant que raison universelle, donc d'un esprit universel, l'histoire de l'école historique demeure une histoire pour soi. Peut-être peut-on dire dès lors que c'est elle qui s'est véritablement enfermée dans le dernier recoin de la maison. Merci.